tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
Bonsoir.
C'est la deuxième fois que nous sommes à l'endroit même où a eu lieu la fusillade en 1932. Mais c'est la première fois que nous sommes à cet endroit et que nous sommes devant la pierre qui a été déplacée il y a environ deux semaines et qui trouve ici son emplacement définitif. Comme de coutume, nous allons avoir d'abord une petite pensée pour 13 morts, mais qui ne sont pas les 13 morts du 9 novembre 1932. Il y a 109 ans, le 23 août 1909, à 500 mètres d'ici, l'usine d'un gaz de la jonction explosait, faisant quelques coïncidences, également 13 morts et de nombreux blessés. Leurs noms sont tombés dans l'oubli. Ce n'étaient sûrement pas des militants, mais nous rendons aujourd'hui aussi hommage à ces victimes du travail, dont la mort avait été considérée à l'époque comme un risque du métier, sans plus. Nous sommes ici pour commémorer ce qui s'est passé à cet endroit le 9 novembre 1932 sur un front de crise économique. L'intervention de l'armée contre les ouvriers, contre des militants qui combattaient le fascisme, cette doctrine de xénophobie et d'exclusion, ce système qui voulait mettre à genoux le mouvement ouvrier. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la mise en accusation de Léon Nicolle et Jacques Dicker n'était pas seulement un soi-disant procès contre des dirigeants de gauche, mais aussi une attaque xénophobe et raciste. Jacques Dicker était juif et le fasciste et futur collaborationniste avec le nazisme, Géo Ultramar, disait de lui « C'est une honte qu'un juif russe, tout juste bon à servir de conseiller national à des chimpanzés, à des ouistitis, représente Berne à Genève à Berne. » Mais l'attaque portait ailleurs encore. Dans le Pilori, le journal fasciste, on lisait « Notre ville connaît l'odieux régime de l'occupation étrangère. D'où viennent les chefs du parti, donc du Parti Socialiste? Léon Nicolle, de Montcherrand, Vaud, donc l'occupation étrangère, vous avez bien entendu. Albert Nain, de Lausanne, Vaud. Charles Rosselet, de Neuchâtel. Jean-Baptiste Ponce, d'Annemasse. Jacques Meizovitch Dicker, donc Jacques Dicker, de Chetim, en Podolie. Ce sont donc deux Vaudois, un Neuchâtelois, un Savoyard et un Juif russe qui veulent faire la loi à Genève. Voilà dans quel contexte l'armée y a tiré sur la foule qui avait voulu empêcher ces gens-là de parler. Devant le désarroi des difficultés économiques, du chômage, de l'exclusion, le repli sur soi engendre des divisions dont profite le patronat. Il mène tout droit à l'intolérance, à la xénophobie et au racisme. L'extrémisme de droite qu'on euphémise en populisme naît sur les peurs, sur le désarroi et la détresse de la population. Notre lutte ne peut pas se permettre de division, de voir les travailleuses et les travailleurs se dresser les uns contre les autres sous prétexte de différences d'origine ou de couleur d'yeux ou de peau. Toute division entre nous fait la force de ceux que nous combattons. Nous n'acceptons pas les discours populistes, ces discours qui prétendent qu'il faut se protéger des autres. Il n'y a qu'une seule condition à notre lutte, une seule solution pour gagner, c'est la solidarité et l'unité sans faille, sans hésitation, sans restriction de pensée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous rendons hommage à ceux qui ont payé ce combat de leur vie. On va procéder au nom à la liste des victimes, la déclaration des noms des victimes, pour qu'on puisse poser ces roses devant le monument. D'habitude, on y faisait à la fin, mais de toute façon, ce n'était pas à l'heure exacte, qui était à 21h34. Donc, les victimes, il y en a 13, et ils sont morts, soit le jour même, ils sont morts sur place, soit ils sont décédés quelques heures dans la nuit, et un ou deux les jours qui suivent. Ce n'étaient pas tous des militants, il y avait des gens qui passaient là, un peu par hasard, et qui ont été pris par le feu. Alors, le premier par ordre alphabétique, c'était Melchior Alemán, qui avait 31 ans, qui était employé d'hôtel et militant socialiste. Hans Brugger, de 28 ans. Francis Claire, 54 ans, fraiseur à l'usine Gardy, dont le fils faisait partie des recrues. Henri Fürst, 38 ans, mécanicien et président du Parti communiste genevois.
Émile Guignet, 27 ans, employé à la Société industrielle mécanique. Émile Henry, 55 ans, batelier. Edmond Junot, 29 ans, mécanicien chez Moto Sacoche. Alphonse Colly, 41 ans, colporteur. Jean-Pierre Lardera, 23 ans, employé de commerce. Gabriel Lou, 57 ans, maître boulanger, patron de la boulangerie du Bourg-de-Four. Oscar Maurer, 25 ans, employé de banque qui sortait du cours du soir. Édouard Quillet, 34 ans, employé à la main du salut. Et Marius Rata, 36 ans, régent principal à Chênebourg. Je vais maintenant passer la parole dans un ordre qui est totalement aléatoire. D'abord à une camarade de l'action antifasciste.
Ce souvenir, c'est lutter. Il y a 86 ans, 5000 manifestantes antifascistes tentèrent d'empêcher un meeting organisé par le parti fasciste genevois, Union Nationale, à la salle communale de Plainpalais. Paniqués, le Conseil d'État et la police firent appel à l'armée qui réprima dans le sang la manifestation antifasciste. Aujourd'hui, la meilleure façon de rendre hommage aux martyrs du 9 novembre 1932, c'est de continuer la lutte. La lutte contre le néofascisme, mais pas uniquement. Le néolibéralisme et le système capitaliste sont les vrais responsables et la vraie racine du problème. Le fascisme n'en est qu'un produit qui se nourrit de nos défaites et de nos résignations. Il est nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, de s'organiser contre la société capitaliste et ce qu'elle engendre. Guerres impérialistes, crises, misère et exploitation. La seule façon de faire barrage à la crise et à la montée de la droite dure et de ses idées est de se rassembler pour construire des alternatives concrètes et des perspectives révolutionnaires. Refusons la politique du bouc émissaire qui détourne toujours la colère populaire à des fins réactionnaires. Développons la solidarité et la conscience de classe. Le capitalisme, le fascisme et la crise ne se combattent pas dans les urnes. L'auto-organisation, l'internationalisme, les grèves et les sabotages ont toujours été les armes des opprimés. La lutte pour une révolution sociale est la seule alternative face à ce système de domination et le seul barrage à opposer à une extrême droite en pleine effervescence. Transformons nos quartiers, nos lieux de travail et d'études en bastions antifascistes. Souvenons-nous de nos mortes, luttons pour les vivantes, construisons des alternatives au capitalisme.
Maintenant, pour le Parti du Travail, Tobias Schneebly.
Merci. D'abord, juste un petit rappel, c'est la deuxième année que nous nous trouvons dans le lieu même où a eu lieu cette fusillade et ce massacre. C'est important parce que ça nous rapproche à quelque part de cet événement que nous commémorons aujourd'hui et ça facilite en même temps le travail de mémoire qui est plus nécessaire que jamais aujourd'hui. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses sont différentes par rapport à 1932, mais il y a des enjeux et des dynamiques qui sont tout à fait semblables. C'est la montée des réflexes identitaires et fascisants dans une partie de plus en plus importante dans le monde. C'est aussi le recours à la violence armée pour défendre un ordre économique et social totalement inégal, injuste et destructeur, au service d'une minorité de puissants face à des hommes et des femmes qui contestent cet ordre de plus en plus inégal et injuste. Comment ne pas penser aujourd'hui et ici aux centaines, aux milliers de Palestiniens désarmés, massacrés par l'armée israélienne à la frontière parce qu'ils manifestaient et ils manifestent pour leur droit au retour? Comment ne pas penser aujourd'hui, ici, à la marche des milliers de réfugiés d'Amérique centrale qui vont bientôt se trouver face à l'armée envoyée par Donald Trump aux frontières? Comment ne pas penser aujourd'hui, ici, aux armées européennes qui repoussent à la mort en mer et dans des camps de l'horreur en Libye des centaines de milliers de réfugiés d'Afrique et d'Asie? Comment ne pas réfléchir aussi aujourd'hui à l'arrogance totale des pouvoirs établis? Ici, après le massacre du 9 novembre 1932, la justice bourgeoise a condamné non pas les responsables politiques et militaires du massacre, mais elle a condamné les organisateurs d'une manifestation antifasciste et pacifique. On retrouve la même arrogance du pouvoir aujourd'hui. Au lieu d'arrêter les politiques criminelles d'oppression et d'exploitation économique et les guerres alimentées par nos exportations d'armes, entre autres, qui jettent à la rue et à la mer des millions de personnes dans le monde entier, au lieu de s'attaquer à ça, on s'attaque à ceux qui commettent des délits de solidarité, comme le maire de Riace en Calabre qui aidait les réfugiés, ou les 7 de Briançon qui sont sous procès aujourd'hui à Gap, qui ont manifesté pour l'ouverture des frontières de ce monde injuste. Ce travail de mémoire des luttes populaires et des mouvements sociaux contre toutes les formes d'oppression économique, sociale et culturelle, et contre tous les fascismes et les racismes, est plus que jamais nécessaire aujourd'hui pour nourrir et renforcer nos luttes d'aujourd'hui, nos luttes de libération, toutes les luttes que nous menons aujourd'hui. Ce sont nos mouvements sociaux qui doivent faire ce travail de mémoire pour renforcer nos luttes d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils font aussi plus tard ce soir à la salle du Faubourg, ceux et celles qui organisent la commémoration actualisée à aujourd'hui de la grande grève nationale de 1918. Merci et vive la lutte de tous et tous, les opprimés ici et dans le monde entier. Merci.
Le GSSA, c'est Théo Frey qui va parler.
Bonsoir, je vais faire une courte prise de parole au nom du GSSA. En ce 9 novembre 2018, nous sommes toutes et tous réunis ici pour se rappeler et pour rappeler la mémoire des victimes de la fusillade de 1932 qui fit 13 morts et 65 blessés, comme ça a été rappelé précédemment. Nous sommes aussi ici pour rappeler la responsabilité de l'armée suisse dans ce massacre. En dépit des tentatives de réécriture de l'histoire ces dernières années de la part de droites réactionnaires et militaristes revenus en force, ici comme ailleurs, les événements, par exemple, les élections au Brésil le montrent, en Italie, etc., et évidemment la Suisse ne manque pas à l'appel. En effet, l'écriture de l'histoire est un enjeu politique, et que ce soit la décision de l'Assemblée fédérale de ne pas annuler la condamnation des antifascistes du 9 novembre 1932, ou que ce soit la Société suisse des officiers et l'UDC qui organise des événements ce soir, les provocations ne manquent pas aujourd'hui même pour tenter tout simplement d'ignorer la responsabilité de l'armée et du militarisme dans ces tragiques événements. Face à ce mépris flagrant pour la mémoire de nos camarades tombés sous les balles de l'armée suisse, face à la répression grandissante des mouvements sociaux par la police, par la justice, par l'ordre économique, etc., nous n'avons d'autre choix que celui de nous réapproprier l'histoire de nos luttes, des répressions subies et de la résistance opérée par celles et ceux qui se battent et se sont battus et se battent encore contre la violence des systèmes d'oppression. Nous n'avons d'autre choix que celui de créer des solidarités entre nous pour briser l'isolement que veulent nous imposer celles et ceux qui choisissent les règles du jeu auxquelles nous sommes toutes et tous astreintes. Dès maintenant, rejoignons-nous pour maintenir allumé le flambeau de la justice, de la paix, de la liberté, contre le militarisme, contre les fascismes, contre les nationalismes, contre l'ordre réactionnaire, capitaliste, patriarcal, spéciste, productiviste, que veulent nous imposer les droites, nombreuses, extrêmes, etc. Dès ce soir, retrouvons-nous ensemble pour célébrer les 100 ans de la grève générale de 1918. Ce ne sera cette fois pas une commémoration à proprement parler, mais la célébration de nos exploits passés, de nos forces présentes et de la lutte qui continue et s'intensifie dès demain. Merci.
Je passe maintenant la parole à Gérard Desus, président du Parti Socialiste.
Merci. Camarades, ce 9 novembre 1932, vers 19h30, ils étaient 4000, 5000, 6000 socialistes, communistes et anarchistes. Peut-être plus, aux abords de la salle communale de Plainpalais, où l'Union nationale avait décidé la mise en accusation publique de Léon Nicole et Jacques Dicker, selon la manière de faire des nazis, force montante en Allemagne. Ils voulaient pénétrer dans la salle et s'exprimer. Ils en furent empêchés par les barrages de la police. Il était 20h. À 21h, l'armée arrive boulevard du Pont d'Arbre. L'armée, des jeunes recrues insuffisamment formées pour être confrontées à la foule et encadrées par des chefs totalement dépassés par la situation. Pourquoi l'armée ? Le Conseil d'État, qui craignait de ne pouvoir maintenir l'ordre, avait fait appel à elle dans l'après-midi. Et les responsables militaires avaient choisi d'envoyer une troupe de jeunes recrues auxquelles il fut expliqué qu'elles allaient devoir réprimer une révolution à Genève. Une révolution ! Le massacre était programmé. Dès 21h15, les recrues prennent peur et se replient ici même, sur cette place, suivis des milliers de manifestants qui exigent que l'armée rentre dans sa caserne. À 21h34, l'armée, sans sommation, tire sur une foule totalement désarmée. 12 secondes de fusillade, 13 morts, 65 blessés. Camarades, ils étaient des milliers ce soir-là, toutes les forces de gauche unies pour défendre la démocratie, dénoncer la montée des fascismes dans l'Europe de l'époque, écrasée par une crise financière sans précédent et ravagée par le chômage. Ils étaient ici, debout, pour refuser les populismes, tous les populismes qui gagnaient déjà en Italie, en Pologne, en Hongrie, et qui allaient l'emporter en Allemagne, en Espagne, au Portugal, et faire des émules dans tous les pays d'Europe. Ils étaient des milliers, ici, ce soir de novembre, pour s'opposer à une extrême droite déjà fortement installée en Suisse et à Genève, avec à sa tête, ici, le dénommé Géo Ultramar. Camarades, cela fait aujourd'hui 86 ans. Sur la pierre mémorielle, il est inscrit « Plus jamais ça ». Et les crises financières se sont succédées. Celle de 2008 a plongé dans la précarité une part importante de nos populations, en Suisse, en Europe et dans le monde. Le taux de chômage a pris d'ascenseur. Les guerres commerciales ont été lancées. Des conflits ont surgi toujours plus proches de nous, appauvrissant les plus faibles, réduisant la classe moyenne, creusant un fossé toujours plus large entre les plus riches et les plus pauvres, poussant des populations entières à prendre le chemin de l'exil et conduisant une part croissante des Européens et des Suisses au repli identitaire, faisant le lit des populismes de toute obédience. Camarades, ce soir, nous sommes face à une situation politique et économique qui n'est pas sans rappeler celle de 1932. Le chômage ne cesse d'augmenter, la précarité de s'étendre, l'extrême droite gouverne en Autriche, en Hongrie, en Tchéquie, en Croatie, en Pologne, en Hollande, en Italie. Elle se renforce en Allemagne, en France, en Scandinavie, en Suisse. Elle est présente sur tout le continent. Elle est à la tête des USA comme de la Russie. Elle vient de l'emporter au Brésil. Camarades, comme ceux de 1932, avec le même courage et la même détermination, nous devons, toutes et tous unis, nous devons poursuivre la lutte pour la démocratie, pour la justice sociale, pour un état de droit au service de toutes et tous. Plus jamais ça. Merci.
Donc la ville de Genève nous a délégué pour la représenter, le conseil administratif, notre camarade Rémi Pagani. Merci.
Mesdames et messieurs, chers amis, camarades, je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous de votre présence ce soir pour se souvenir ensemble de cette dramatique journée du 9 novembre 1932. C'est une fois encore le devoir de mémoire qui nous réunit ici. Parce que ce 9 novembre 1932 restera comme la date la plus tragique de l'histoire contemporaine de Genève. Ce jour-là, de jeunes recrues de l'armée suisse ouvrent le feu sur la foule, provoquant la mort, on l'a dit, de 13 personnes et faisant 65 blessés. La fusillade éclate lors d'une manifestation des partis de gauche opposée à un meeting des fascistes genevois dirigé par Georges Ultramar. Ce soir, nous nous rassemblons pour nous souvenir de cet instant terrible, de ces souffrances inutiles, de ces destins brisés. Nous nous rassemblons pour rendre hommage aux victimes et pour poursuivre encore et toujours cette action de commémoration qui permet de lutter contre l'oubli et la banalisation de l'histoire et de conjurer un passé que l'on ne veut pas voir se répéter. Les années 30 nous montrent en tout cas où peuvent mener les nationalismes. Ce 9 novembre 1932 s'inscrit dans l'époque des mouvements fascistes qui s'étaient constitués au lendemain de la Première Guerre mondiale sur fond de malaise social, intellectuel, politique et bien sûr économique. Au lendemain de la grande crise de 1929, avec notamment 12 millions de chômeurs aux États-Unis et 6 millions en Allemagne. Même si la situation du monde actuel n'est évidemment pas comparable, on constate que dans de nombreux pays se propagent aujourd'hui les idées extrémistes prônant la confrontation, la peur de l'autre et la stigmatisation et l'intolérance. Et l'on sait très bien que ces idées néo-fascistes peuvent mener à tous les débordements et à toutes les folies. Ce début de troisième millénaire n'a donc pas fait disparaître toutes les menaces, puisque aujourd'hui, les atteintes aux libertés et la répression brutale des mouvements sociaux et des minorités est malheureusement toujours une réalité. D'où l'impérieuse nécessité dans la vie d'une société démocratique comme la nôtre de rappeler ces moments qui blessent la mémoire pour que jamais on ne leur donne la moindre chance de se reproduire. En ce qui concerne cette pierre et son implantation, la ville de Genève est heureuse d'avoir pu participer à ce long combat qui a été mené par plusieurs d'entre vous. En effet, rappelons-nous que lors de son inauguration déjà, elle subissait des protestations des milieux réactionnaires. Un citoyen a même utilisé son 4x4 pour l'arracher de son socle. Des nombreuses entraves politiques, juridiques et techniques, prétextes, ont été opposées aux légitimes demandes de celles et ceux qui voulaient voir poser ce monument de mémoire sur le lieu même de la tuerie. Mesdames et messieurs, en cet instant de souvenir, il faut rappeler et défendre inlassablement les valeurs humanistes qui sont les nôtres, les valeurs de liberté, de dignité, de justice sociale et de tolérance qui fondent notre société démocratique. C'est le capitalisme qui est le terreau de la situation historique qui secoue le monde. Il faut s'en débarrasser. Au nom des autorités de la ville de Genève, je tiens encore une fois à vous remercier toutes et tous de votre présence et à remercier également le comité d'organisation du souvenir du 9 novembre 1932 pour cette action indispensable de témoignage et de mémoire. Je vous remercie.
Merci Rémi. Toujours par là. Juste pour faire une petite transition avec la soirée de tout à l'heure, j'aimerais rappeler quand même, parce qu'on a parlé des grèves et tout ça, c'est qu'il y en a qui disent que la paix du travail a permis la croissance économique. C'est juste pas vrai. C'est juste la croissance économique qui a permis qu'il n'y ait pas une grève pendant longtemps. Et c'est intéressant de constater que les luttes, et notamment la grève de 1918 qui était considérée comme un échec, cette grève de 1918 a amené de grandes conquêtes du mouvement ouvrier. Bon, il y avait le droit de vote des femmes, ça il a fallu attendre assez longtemps, mais il y avait quand même la représentation proportionnelle au Conseil national, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Il y a eu la semaine de 48 heures, il y a eu la baisse du prix du pain, etc., du lait, pardon, etc. Donc c'est bien la lutte qui a mené à ces améliorations, et ce n'est pas le bon vouloir patronal, ça n'a jamais été. Toutes les conquêtes du mouvement ouvrier ont été des conquêtes de lutte, ça n'a jamais été la bonne volonté des patrons. Et par contre, ce qu'il faut aussi constater, je viens de m'en rendre compte en lisant le livre qui a été consacré à la grève générale de 1918, c'est qu'elle a eu comme conséquence aussi un durcissement vis-à-vis de la population étrangère, notamment parce qu'on disait que les principaux meneurs venaient d'Allemagne. Lénine était pas là, mais enfin il n'était pas loin non plus, il était parti de Suisse juste avant. Et c'est ça qui a amené à la création des permis de travail à la fin de la guerre mondiale. Ça a été dans tous les pays, mais en Suisse particulièrement, c'était aussi pour lutter contre une invasion étrangère qui était une invasion de militants et de révolutionnaires pour solidarité.
Voilà, merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je pense que cette commémoration du 9 novembre 1932 est chaque année plus importante. Il y a 2 ans, j'avais parlé ici de l'élection de Donald Trump. Ce soir, il faudra parler de l'élection de Bolsonaro au Brésil. On voit cette montée d'extrême droite qui résonne cruellement avec l'histoire qu'on commémore ce soir. Une montée d'extrême droite qui ne vient pas de nulle part, il faut le rappeler, qui vient aussi d'une détresse sociale immense après que le rouleau compresseur néolibéral soit passé sur l'ensemble du globe et détruit les liens de solidarité, atomisé les identités collectives et laissé les gens dépourvus. Et puis, il faut le dire aussi, la montée de l'extrême droite, c'est l'échec d'une certaine gauche qui a tourné le dos aux couches les plus précaires de la population, qui a renoncé à amener un discours de rupture face à une société qui a fait exploser les inégalités sociales, qui a fait grimper la misère partout. La réponse à l'extrême droite doit être une réponse politique, sur le terrain, renouer avec un discours réellement social, amener une alternative à ces personnes-là, rassembler les forces, et ça a été rappelé tout à l'heure, lutter collectivement comme les personnes le faisaient en 1932, comme elles et ils l'ont fait également en 1918 lors de la dernière et unique grève générale de la Suisse dont nous commémorons les 100 ans cette année. Et puis on constate aussi de fait un durcissement de la répression des mobilisations sociales. Évidemment, ce n'est pas des morts comme en 1932, mais c'est quelque chose qui est à l'œuvre. On voit l'armée de plus en plus présente sur le terrain, la police aussi qui durcit le front. Et il faut citer la provocation de la société militaire qui organise ce soir, le 9 novembre, un discours, une table ronde adressée à tous les députés du Grand Conseil pour parler des enjeux de l'armée au XXIe siècle. L'armée n'a pas le droit d'organiser une commémoration publicité le 9 novembre. Elle n'a qu'un seul droit, celui de se taire. Je vous remercie.
Merci. Alors à tout à l'heure, c'est à 6h30 à la salle du Faubourg. Je pense que vous y serez toutes et tous.
Libre Radio, la radio ni roots, ni rasta. Libre Radio, www.libradio.org, la radio coup de tête balayette. Pour la mort définitive des banques et des églises. Et vive l'anarchie, tout ça, tout ça.
Et lui fut crié mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre tour avec rudesse, le crâne d'un de ses lourdeaux, entre ses gigantesques fesses, qu'elle serre comme un étau.
Radio, la radio dans ta tête et dans la ruc. Libre Radio, la radio pour un bal mondial et prolétaire. Libre Radio, la radio d'agitation populaire. Novembre 1932. Ni oubli ni pardon. Plus jamais de fait chaud dans les rues. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté.
À l'âge de 12 ans, ils t'ont qualifié d'enfant délinquant. Petit petit meurtrier. Et à 14 ans, de psychopathe grave et d'adolescent irrécupérable. Puis à 17 ans, t'étais alcoolique en camp de redressement et les coups de trique. Et à 18 ans, tu as fait l'armée. Tu as déserté. Service militaire, camp disciplinaire, prison psychiatrique, orange mécanique. À l'âge de 20 ans, t'es devenu violent. T'as pris les devants, il y a eu du sang. Ils t'ont envoyé au pénitencier. Au lieu d'écouter, au lieu de t'aider. Quand tu sortiras, il n'y aura rien pour toi. Tu recommenceras.